C'est ça la classe.
Numéro 15. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous sommes la Dream Team habituelle, un petit peu réduite parce que certains sont allés faire l'école buissonnière de la radio et de CCC, ils sont allés au ski, c'est vrai que c'est la saison, mais nous sommes suffisamment pour pouvoir débattre, vous connaissez le principe, une fois tous les 15 jours, en direct sur Radio Diwa, de 12h10 à 13h, avec une rediff le dimanche d'après. Nous débattons de l'actualité et les lycéens s'emparent de l'actualité. Alors attention à noter deux choses importantes aujourd'hui. D'abord, on vous parlait de la page Facebook la dernière fois. Eh bien, vous pouvez dès aujourd'hui intervenir en direct sur Facebook, envoyer vos commentaires, poster vos commentaires, comme on dit, et réagir aux propos tenus par nos lycéens. Ensuite, deuxième élément important, la semaine prochaine, donc de manière exceptionnelle, nous serons là deux semaines à la suite. CCC numéro 16 sera consacré à l'accueil de notre deuxième invité politique, candidat au municipal à la mairie de Die. Il s'agit de monsieur le conseiller régional, monsieur Didier Jouve, qui est conseiller régional vert et qui se présente donc à la mairie de Die. Je vous rappelle aussi que le 19 février, c'est monsieur Berginat, le maire actuel, que nous recevons. Et puis peut-être, sans doute, les bruits bruisse d'on dit, et ça devrait se préciser, un quatrième candidat, voire un cinquième. Évidemment, tous seront accueillis à la table des lycéens. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toutes au singulier, puisque Magda est la seule représentante de la gente féminine. Bonjour Magda.
Bonjour.
Bonjour Ulysse.
Bonjour.
Bonjour Théo.
Bonjour.
Et bonjour Joris.
Bonjour.
Bonjour Julien.
Bonjour, bonjour.
Et bonjour Adrien.
Bonjour.
Vous allez bien, vous êtes en forme?
Oui, super.
Les trois sujets du jour vous inspirent, comme d'habitude?
Oui.
Ulysse fait une moue dubitative. Alors on vous donne le menu parce que je ne l'ai pas encore donné. Les trois sujets du jour avant nos coups de cœur et coups de gueule habituels, évidemment. Non sans vous avoir rappelé aussi, on parlera peut-être d'ailleurs dans les coups de cœur, coups de gueule du cannabis, puisqu'un député, monsieur Ciotti, a proposé de détecter le cannabis chez tous les lycéens de France au moins une fois par an. Je pense que les lycéens auront une opinion là-dessus. Également à vous signaler que donc la page Facebook, j'en ai déjà parlé. Vous avez bien pris note. Le standard, évidemment, vous pouvez toujours intervenir en direct comme d'habitude. 0952 368 531. 0, ils me font des signes autour de la table parce que je vais trop vite. 0952 368 531. 0952 368 531. Un petit rappel, une petite information importante aussi qui concerne ceux qui sont autour de la table, les lycéennes et lycéens. Samedi, qu'est-ce qui se passe samedi, de 9h à midi, au lycée du Diwa,
oui.
Les portes ouvertes. Magda, tu vas en dire un mot, en quoi ça consiste? Qu'est-ce qui va se passer dans ces journées portes ouvertes? Tu seras là, toi?
Oui.
Donc si vous voulez rencontrer Magda, et probablement la plupart des autres chroniqueurs et chroniqueuses, ouais, oui, tous ceux qui sont là seront à peu près là.
Non, pas moi.
Presque
moi,
tout le monde. Eh bien, venez voir en chair et en os. Le lycée du Diwa, on va pas le personnifier, mais surtout venez voir en chair et en os les chroniqueurs. Alors c'est pas écrit sur leur front, mais peut-être qu'ils se promèneront avec une pancarte dans le lycée avec chroniqueurs du lycée du Diwa. La CPE fait ça très bien, fait des badges en général nominatifs.
Ouais,
faudrait qu'on lui demande de rajouter une chroniqueuse à CCC, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous rencontrerez les jeunes, vous rencontrerez les professeurs. Vous qui habitez à Die, et puis même au-delà, la section sport nature évidemment, spécificité du lycée, les arts du cirque également seront présentés. Puis il y aura des mini cours pour les collégiens. Les trois sujets du jour, donc, sont, pour le premier, eh bien, cette question sur le gaz de schiste dont on parle de plus en plus. Gaz de schiste, pour ou contre? Est-ce que c'est un moyen de trouver une nouvelle ressource? Est-ce que c'est épuiser et abîmer la nature? Nous débattrons dans un premier temps de ce sujet-là dans quelques secondes. Ensuite, on s'intéressera à ce qu'ont fait les États-Unis. Il y a quelques semaines de cela, ils ont proposé une loterie nationale réservée aux personnes avec de faibles revenus. Et il y avait à gagner non pas de l'argent cash, mais des soins médicaux pour ceux qui donc ne pouvaient pas les payer. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est bizarre? Est-ce que c'est transposable en France? Est-ce qu'on peut gagner une loterie sa santé? Ou est-ce que ça n'est pas envisageable en France? Je vous poserai la question. Et puis enfin, troisième et dernier sujet, il y a quelques semaines également, on a révélé que Paris était devenu, derrière Londres, la... moins entre les deux fréquenté des touristes au monde. Londres a supplanté Paris parce que les Français seraient impolis, les Parisiens en particulier. Alors les Français, les autochtones, sont-ils tous affreux, sales et méchants? Pour parodier un dessin animé, eh bien nous débattrons de cela dans un troisième temps. Nous commençons donc par le premier sujet sur le gaz de schiste, ce qu'on appelle la fracture hydraulique. Alors le gouvernement semble être un peu en arrêt sur ce sujet-là. L'Europe a plutôt donné un signal rouge il y a quelques semaines. Mais à l'intérieur du gouvernement, on a des avis différents, entre notamment la ministre de l'écologie, je crois, et M. Montebourg, qui lui serait un peu plus partant pour. Ça a été fait aux États-Unis notamment. Et puis il faut savoir que le groupe Total, le groupe français, est en train de faire de la fracture hydraulique en Grande-Bretagne, puisque ça n'est pas autorisé ici. Julien,
ouais, c'est ce que j'allais
pour
dire,
ou contre le gaz de schiste?
Ma foi, c'est un avis mitigé que j'ai. Pour moi, ce serait plutôt contre quand même, quand on voit les dégâts que ça peut causer au niveau de la nature et au niveau de l'environnement. Ça serait plutôt contre, mais en même temps, on se dit, le gaz de schiste, est-ce que ça pourrait pallier tous les problèmes de nucléaire en France? Pour moi, c'est résoudre un problème par un autre problème, quoi. C'est, ouais. Voilà, c'est vraiment... je pense pas que ce soit la solution, mais c'est vrai, comme on a dit exactement au début, c'est pour le moment interdit en France et ça serait peut-être bien que ça le reste. Ouais.
Est-ce qu'essayer, rechercher, c'est en soi interdit, rédhibitoire ou
rechercher pour que ça fasse moins de dégâts à la limite, oui. Mais alors rechercher pour produire plus d'énergie et polluer plus, ça non, ça c'est certain.
Julien, je vais répondre à ton argument. Le gaz de schiste ne peut pas remplacer le nucléaire, parce que ce serait pas le même type de ressources.
Ah non, mais c'est certain que ça peut pas produire le même genre d'énergie, ça c'est évident. Mais
dans
après,
dans tous les cas, si on part sur le gaz de schiste,
le nucléaire est quand même beaucoup plus productif, je pense, que le gaz de schiste.
Le gaz de schiste serait surtout pour remplacer le pétrole quand il n'y en aura plus.
Voilà, c'est la différence entre des énergies. Le nucléaire, c'est pour l'électricité, alors que les gaz de schiste, ce serait comme combustible à la rigueur pour faire de l'électricité, mais bien évidemment comme combustible, comme gaz de chauffage,
oui,
pour les véhicules, etc. Okay. Ça n'a rien à voir. Et pour rebondir sur ce que disait Julien, moi je pense que donc on se demande, est-ce qu'il faut de la recherche? Bon, pourquoi pas de la recherche, et on arrive à choper de ces gaz de schiste parfaitement sans aucun dégât pour l'environnement, mais tous ces millions d'euros qu'on met dans la recherche sur le gaz de schiste, pourquoi on ne les met pas dans de la recherche et du développement pour les énergies renouvelables, solaire, de l'électricien, de solaire, l'hydraulique, marée motrice? Et ça, c'est vraiment les énergies d'avenir,
oui,
et les énergies renouvelables,
ouais.
Et c'est là-dedans qu'il faut mettre
l'investissement
public. Alors
après, que, comme on a dit tout à l'heure par rapport au nucléaire, toutes ces énergies-là ne suffiraient pas, enfin en
ça,
tout cas
certain,
une seule,
hein.
En termes de quantité par rapport au nucléaire.
Développons ça pour trouver justement...
Mais le souci, c'est qu'on ne pourra jamais produire autant d'énergie quand toi, par exemple, l'Italie, qui a banni le nucléaire depuis quelques années déjà, enfin
oui, même
quelques
longtemps.
Bonnes années.
Très longtemps.
On voit qu'ils n'arrivent même pas à produire assez d'énergie pour eux, parce qu'ils sont obligés d'acheter de l'énergie à la France pour subvenir à leurs besoins en électricité. Donc de toute façon, je pense que... Alors les énergies renouvelables, ça c'est super, moi je suis le premier à encourager ça, mais on ne pourra jamais produire autant qu'avec une centrale nucléaire. Ça c'est quelque chose qui... Enfin au niveau... matériel, c'est quelque chose.
Il faudrait
des centaines et des milliards d'éoliennes ou de panneaux solaires pour pouvoir produire autant, quoi.
Ouais.
Est-ce qu'il faut pas réduire notre consommation d'énergie, peut-être?
Bah oui,
c'est ça.
C'est facile à dire.
Le problème, c'est que de notre société maintenant, en 50 ans, on a, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais on a multiplié par 10 la consommation d'électricité.
Ah,
ça c'est impressionnant.
Et puis ça va aller de pire en pire, parce que les voitures vont rouler à l'électricité, on aura besoin encore plus d'énergie, encore plus d'électricité, et de toute façon ça va aller que de pire en pire.
Le gaz de schiste, c'est pas pour l'électricité a priori, hein, c'est un combustible.
Justement, les énergies renouvelables qui sont favorables à l'environnement, justement, ces millions que tu parlais d'euros qui sont dépensés pour le gaz de schiste, moi je rejoindrais plutôt l'idée du 10, du fait de rechercher plus en profondeur comment améliorer justement la production d'électricité par l'énergie éolienne, l'énergie marée motrice, etc.
Ou de nouvelles choses.
Oui, voilà.
Qui pourraient créer des emplois en plus.
C'est aussi
un argument pour le gaz de schiste. Ceux qui sont pour 10, c'est aussi une manière de produire des emplois.
Oui, j'allais justement en parler quand tu dis parler de nouvelles énergies, nouvelles choses. On a fait notamment des recherches, je crois que c'est aux États-Unis, qui sont en train de faire des recherches sur ce qu'on appelle le deutérium, qui est un matériau en fait qui est capable de produire des masses d'énergie assez impressionnantes, même plus je crois qu'une centrale nucléaire, et qui a quasiment que les avantages, c'est-à-dire qu'il y a zéro rejet, etc. Enfin, c'est vraiment, mais pour moi c'est pas encore au point.
Mais
donc je pense qu'il ferait bien de
le nucléaire au début, que c'était zéro danger. Hein.
Mais oui, c'est ça.
Oui, non, mais après là je pense qu'on a un niveau déjà plus poussé, on a plus d'expérience au niveau nucléaire, on sait que c'est pas forcément solution à proprement parler.
On aura toujours des surprises, je pense.
Oui, c'est ça. Quand on nous dit tout va bien,
on nous dit pas tout.
On découvre 40 ans après qu'il y a ça engendre telle chose.
Avant Tchernobyl, tout allait bien.
Tout allait bien.
Oui.
Beaucoup disent que c'est quand même pour l'instant le moyen, enfin un des moyens les plus sûrs.
Le nucléaire.
Le nucléaire n'est pas en tout cas en Europe, en tout cas en France, c'est ce qu'on nous dit. Après, je sais pas quelle est la part de.
Sûr, ça reste à voir. On a quand même de nombreuses centrales qui commencent à vieillir en France.
Allez regarder les rapports indépendants de Greenpeace sur l'état de Fessenheim. Ça fait vraiment très très peur.
Les rapports indépendants de Greenpeace.
Mais indépendant, c'est
un peu contradiction.
Non, mais c'est-à-dire que c'est forcément à charge, mais ce n'est pas EDF ou l'agence nucléaire, je sais plus comment, l'agence de sécurité nucléaire qui fait ces choses-là. Qui auront bien évidemment intérêt à défendre leurs propres intérêts, Greenpeace d'eux-mêmes. Mais
voilà. Alors, le nucléaire, est potentiellement dangereux. Vas-y, Julien, vas-y.
Non, je disais, c'est un peu ça le souci avec les organismes style Greenpeace, etc. C'est parce que quand c'est les responsables de la sécurité nucléaire qui doivent faire, par exemple, une conférence de presse ou quoi pour expliquer un incident, ils vont bien sûr, je pense, pas dire la vérité, ça c'est certain. Mais quand c'est Greenpeace, je pense qu'ils auront tendance justement à exagérer un petit peu la chose. Et donc au final, la vérité,
elle est en entre-deux.
L'égalité en tout cas des choses, on le sait pas vraiment, on n'en sait rien.
Elle est
ça qui est un petit peu.
Nucléaire, c'est dangereux. Les éoliennes, personne n'en veut à côté de chez soi, parce que ça aussi, on l'entend beaucoup. Il y a même des écologistes. Ah, faux.
Je parle pour ma personne.
Je ne te fais pas injure, surtout pas toi, de ne pas lire les journaux. Très régulièrement, quand on veut implanter des éoliennes, y compris des écologistes, ou déclarer comme tel, ne veulent pas parce que ça gâche en termes de pollution visuelle.
Dis-nous
ce que tu fais.
Que pour moi, l'éolien, pour moi, ne gâche pas du tout le paysage et je trouve que cela ne me dérangerait pas qu'il y ait des éoliennes, des grandes éoliennes partout dans le Liois. Et que pour moi, c'est toujours l'histoire. Nous, on en veut toujours. On veut les choses, mais jamais à côté de chez nous.
Ça,
on veut les choses. On adore le TGV, mais par contre, la ligne TGV à côté de chez nous, non, on n'en veut pas. Il y avait par exemple.
Je suis le premier à être victime du TGV.
Et il y a plein de choses comme ça. On est solidaire, mais c'est pas nous qui allons donner. Et à un moment, il faut regarder les choses en face.
Il faut assumer. Voilà,
c'est ça, je suis tout à fait d'accord.
Quand vous traversez certaines régions, notamment dans l'ouest des États-Unis, c'est impressionnant le nombre de.
C'est des champs d'éoliennes.
Moi, je trouve ça pas moche.
Qu'on trouve.
Il y en a beaucoup dans la région.
Après, c'est une histoire de goût, effectivement.
Il y a du Rhône aussi.
Il
y a tout le monde. C'est pour ça, les gens, ils veulent améliorer les énergies renouvelables, mais le problème, c'est qu'ils sont un peu égocentriques parce qu'ils veulent. Ils pensent à eux, ils disent non, faut pas le mettre là, faut pas le mettre là. Mais on le met où alors?
Personne n'en veut. Centrale nucléaire, c'est pareil. Personne n'en veut, mais objectivement, ça a créé énormément de bassins d'emploi et de structures. Non, pas très loin d'ici, dans le Tricastin, Saint-Paul-Trois-Châteaux est devenu une ville riche.
Personne n'en veut, c'est faux. Hein, justement, à mon avis, le maire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, il était bien content que le Tricastin soit là.
Certains, peut-être les mêmes que ceux qui ne veulent pas bizarrement les éoliennes pour la pollution visuelle, donc un peu vert, on va dire, coloré vert, sont. Évidemment contre les centrales nucléaires, mais sont peut-être parfois les premiers vers autre, peu importe, on va pas utiliser le débat, mais à profiter des piscines qui sont construites, des écoles, des collèges, ça apporte aussi beaucoup d'avantages à ceux qui habitent, ça permet de développer la ville. Mais évidemment, avoir une centrale nucléaire à côté de soi, ça fait toujours un peu peur. Vous savez qu'on donne des pilules préventives et on fait plusieurs entraînements, je ne sais pas quels effets elles auront. Mais
c'est pas le même calibre aussi une éolienne à côté de chez soi et une centrale nucléaire.
C'est pas pareil. Mais c'est vrai que quand même, je pense qu'il faut aussi tourner la chose. De toute façon, pour le moment, je pense qu'on n'a pas forcément le choix. Le nucléaire, d'accord, mais il va falloir qu'on trouve des avantages à cela. Par exemple, je vois la centrale, je crois que c'est dans le Tricast. Si je dis pas de bêtises, ils ont réutilisé la chaleur que ça crée pour la serre des crocodiles à Pierre Latte. Donc à la limite, ça peut aussi avoir des avantages pour autre chose. Ça a certes beaucoup, je pense, d'inconvénients, mais il faut aussi voir les avantages.
Des sites les plus visités de France, la serre crocodile. Ouais, et la Drôme en tout cas.
Donc voilà, il faut pouvoir aussi en tirer des avantages et aussi
ça
pouvoir
fait cher des crocodiles.
Il y a le site du facteur cheval, je crois, premier, et la serre aux crocodiles est vraiment pas loin. Château de Grignan, évidemment, c'est dans le top 3, me semble-t-il. Voilà.
Bon, des gaz de schiste, on part vraiment très loin ici, ISCC. Hein.
On est arrivé jusqu'aux crocodiles. Alors, Magda, on jette les crocodiles à l'eau, on jette les défenseurs du gaz de schiste, qu'est-ce que tu en penses? Tu crois que. Il faudrait au moins essayer, et puis avant d'aller trop loin, se rendre compte si c'est utile ou si c'est dangereux, ou il faut même pas essayer par principe de protection de la nature, parce que c'est un peu bouleverser la nature. Ça, l'argument principal. Ouais. Et puis des dangers pour ceux qui habiteraient à côté aussi, parce qu'il y a eu de ce genre d'argument aussi.
Enfin, contre, mais en fait, c'est pas possible parce que il y a des énergies qu'on utilise qui commencent à disparaître, et du coup, les énergies renouvelables, on en. comme disait Ulysse, on pouvait pas, personne en veut. Enfin, à côté de chez eux, du coup, bah, on peut pas trop les utiliser. Mmh. Alors, du coup, si c'est la seule solution.
Bon, on va voir comment les choses évoluent. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression quand même que pas grand politique est prêt à se mouiller, à part quelques-uns, pour, en tout cas, actuellement pour aller là-dedans. Bon, pour l'instant, de toute façon, on marche un peu sur des œufs. On l'a vu que la famille, c'est un autre sujet, mais puis les élections approchent, donc probablement que c'est le genre
c'est
de sujet un peu controversé.
Oui,
c'est jamais le moment, mais bon, c'est certainement pas le moment.
C'est François Fillon, durant la présidence Sarkozy, qui avait déclaré nous n'acceptons pas les gaz de schiste, et le gouvernement socialiste a prolongé ça, même s'il y a eu un problème, enfin, même si Arnaud Montebourg a provoqué un peu les écologistes en disant ça pourrait être intéressant. Il y a pas un consensus, mais c'est pas forcément une différence très droite gauche en fait. C'est assez peu clivant dans ce sens-là, ce débat-là. Voilà.
Alors pour ou contre le gaz de schiste, on n'a pas tranché, mais c'est difficilement tranchable. Le deuxième sujet, c'est encore du pour ou contre, hein, comme souvent. Ce phénomène donc qui s'est passé aux États-Unis, je sais pas si Joris va nous envoyer un petit jingle ou pas. Mais c'est pas obligatoire, mais c'est possible, mais c'est pas obligatoire, mais il peut le faire. Joris.
Nous avons confiance
en
Joris.
Nous avons confiance en Joris.
Ah ouais, c'est bon.
Un petit jingle, Joris, et puis on passe. Joris, du coup, moi je. M'envole.
C'est ça la classe.
Et oui, on ne s'en lasse pas. C'est ça la classe. Sujet numéro 2. Est-ce que vous avez entendu parler de cette chose, si je puis dire, qui a fait donc que les États-Unis, je ne sais plus dans quel état, ont proposé donc une loterie et que le lot à gagner n'était pas de l'argent ou un filet garni ou un voyage en Europe pour les États-Unis, mais bel et bien des soins médicaux, je crois, pour un nombre de mois déterminé, comme on gagne parfois, vous savez, dans certaines radios de Jones, son salaire doublé chaque mois. Donc là, c'est des soins médicaux. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un lot comme les autres, ou est-ce que c'est pas tout simplement quelque chose auquel tout le monde devrait avoir accès sans forcément avoir gagné au jackpot? Alors évidemment, le système de santé aux États-Unis n'est pas le même qu'en France, on va sûrement en parler, mais qui a un avis sur la question? Ulysse, pour commencer.
Je trouve ça proprement dégueulasse, parce que les gens, ils vont quoi, ils jouent à la loterie, comme on va acheter notre ticket de loto au bar tabac du coin, et la santé, finalement, quoi, c'est quoi? C'est la vie. Donc, on joue.
Sur le hasard va définir si on va...
Exactement, Adrien, c'est ça. Donc, c'est au hasard qu'on détermine l'espérance de vie des Américains.
Exactement, ouais.
Donc, bon, chacun a son jugement, mais pour moi, ça me paraît assez clair et que... Ça montre quand même que le modèle américain n'est pas un modèle, tout simplement.
Alors ça, c'est peut-être un peu radical, mais c'est vrai que le système de santé est différent. S'ils s'en sont arrivés là, enfin, c'est une loterie, hein, je crois pas que c'est une des tonnes, mais c'est une loterie qui a été proposée. C'est parce qu'il y a beaucoup d'assurances privées. Contrairement en France, il n'y a pas l'équivalent de sécurité sociale. Même si M. Obama a un peu changé, amélioré les choses il y a quelques mois de cela.
Ouais, ouais.
Donc du coup, c'est un peu, effectivement, en fonction de vos revenus, que vous êtes plus ou moins bien soigné. Ce qui en France, c'est en partie vrai sur, je pense, aux soins dentaires par exemple, qui sont un gros souci.
Oui, on en a reparlé.
Les petites bourses, on en a reparlé récemment avec des dentistes justement qui sont en grève. Si des dentistes veulent nous rejoindre ici, car c'est un vieux débat. J'ai l'air de plaisanter, mais je n'ai jamais compris. Je me suis pourtant intéressé à la question entre les prothésistes dentaires, les dentistes, qui, pour parler clair, avaient les plus grosses marges. Quand vous écoutez ceux qui fabriquent les prothèses, vous savez, les fameuses couronnes. Ils vous disent que non, c'est les dentistes qui, ce qui est logique, prennent une marge, mais une marge énorme pour revendre ces prothèses aux patients. Les dentistes vous disent l'inverse, que c'est les prothésistes qui font payer ça très cher. Donc j'ai jamais vraiment réussi à savoir le vrai du faux. C'est des tarifs qui sont un peu opaques en tout cas. Et les dentistes semblent ne pas gagner suffisamment leur vie, puisqu'ils étaient en grève il y a quelques jours de cela. Alors, revenons au... Enfin, nous sommes déjà dans la santé, mais à la santé en général, est-ce que vous... Donc personne autour de la table ne serait d'accord pour... faire ce genre de choses en France, pas de loterie.
Bah pour eux, ça a quand même une valeur, je pense, qu'il n'y a pas de système de sécurité sociale. Mm-hmm. Du coup, on peut comprendre que ça fasse partie d'un lot, dans une loterie, mais je rejoins complètement l'idée d'Ulysse. C'est aberrant de devoir laisser le hasard faire les choses sur justement le fait de se soigner, quoi, ce qui touche à la vie, du coup.
Vous mettriez la limite.
Ça ne va pas ensemble.
Dans ce qu'on peut gagner une loterie. Donc les soins de santé, non.
Mais bah, l'argent, c'est
est-ce qu'on peut gagner l'amour, une femme?
La loterie.
La télé-réalité, d'une certaine manière, c'est un peu ça. Vous savez, c'est ces dames qui se présentent.
Et vous avez gagné Brenda ce soir, effectivement.
Ça existe déjà un peu, ça.
Ouais, mais bon, ça.
C'est pas beaucoup plus moral.
Ah, mais la loterie, enfin pour moi personnellement, je trouve que les loteries, les jeux d'argent, bon là c'est quasiment de l'argent, bon là on joue avec la vie, c'est encore plus drôle, mais pour moi c'est proprement, enfin c'est qui est-ce qui balance tout son argent là? La plupart du temps c'est les classes populaires, c'est les gens qui ont très peu de revenus et qui ils tentent leur chance parce que justement ils ont aucune autre chance. Ça veut dire que voilà, entre guillemets,
fragilisés, en fait.
L'État, la société est défaillant puisqu'ils ne sont pas, donc ils se tournent vers le hasard. Et pour moi, je trouve que
ils tombent encore plus dans un cercle vicieux.
L'État se fait des millions sur la FDJ parce que il y a plein de gens que en fait on paye.
Française des jeux pour ceux qui ne connaissent pas.
On paye nos impôts en jouant à l'euro million. Faut le savoir.
Et vous jouez, vous, autour de la table? Peut-être pas vous êtes mineur, on n'a pas le droit. Mais est-ce que vous avez des gens autour de vous
que le vendredi 13, nous, on joue.
Qui achètent des.
C'est pas question de superstition.
Des jeux, je les connais pas tous d'ailleurs, mais jouer au loto, jouer.
De toute façon, en France, c'est interdit à moins de 18 ans, donc ça,
oui,
c'est certain.
Mais dans votre entourage, il y a beaucoup de gens qui jouent, vos parents.
Parlons de ça, c'est interdit au moins de 18 ans, mais moi, je connais des gens quand même qui. Maintenant, ça s'est étendu, c'est pas uniquement le loto, c'est maintenant les paris sportifs qui a pris une ampleur assez impressionnante. On peut vraiment parier sur les matchs, sur le. Quel joueur va mettre tel but, etc. dans un intervalle. Enfin, il y a vraiment des. Il y a plein de
avec
critères
des
différents.
Plus,
voilà.
C'est le fameux handballeur.
Oui. Et après, voilà, de ce côté-là, on peut voir, après, il y a des joueurs qui font exprès de faire perdre leur équipe, justement, pour avoir peut-être.
Karabatic. Karabatic. Je prononce bien. Ouais. Il y a un fan à ma gauche, c'est ça, Théo? Il fait la grimace.
Ouais. Ouais, il n'attaque pas, je rappelle juste.
Fait la grimace à propos de ça parce que les footballeurs et les autres qui gagnent des millions d'euros et ont fait un scandale juste parce que des.
Ah bah s'il a triché,
oui, il a triché, oui, je suis d'accord. Ça, il a pas le droit. Je suis d'accord qu'il doit juger et avoir une amende, mais pas sur. Je sais pas, moi je. Il y en a plein qui le font, je pense.
Ouais, les paris sportifs, moi ça me fait penser un peu à ce que j'appellerais le syndrome retour vers le futur. C'est-à-dire qu'on sait jamais trop comment ça se passe et au final, peut-être qu'il y en a qui se font des sous. Alors
et
que...
le week-end, moi je connais absolument pas ça, mais c'est impressionnant. Vous allez dans les marchands de journaux d'une grande ville, mais dit certainement aussi, mais en particulier dans les grandes villes, c'est encore plus impressionnant. Nombre de gens qui font la queue derrière une espèce de petit comptoir en train de cocher des.
Bon, ah oui,
tout ça m'échappe un peu. Alors là, il faut le tiercé, là, il faut le foot.
Mais
c'est essentiellement le foot.
Le foot, ça a pris une ampleur sur le. Mais maintenant, le basket, je ne sais pas s'il y a le hand, par exemple.
Et les gens font ça de manière appliquée, coche. Hein,
des
élèves studieux qui font bien attention.
Mais il y a moyen de se faire, je pense, beaucoup d'argent. Il y a des sites qui disent, enfin vraiment, c'est juste... des mathématiques.
C'est
après,
ça qui est presque même flippant, parce que maintenant, les gens ne sont même plus obligés de se rendre dans les tabac-presse. C'est qu'ils, depuis chez eux, ils ont Internet, ils ont un PC. Et bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir la carte bleue et parier à longueur de journée.
Mais là, on peut demander conseil
au poker.
C'est plus convivial, quand même.
Non, c'est sûr, mais du coup, les gens...
On peut gagner beaucoup d'argent.
On perd beaucoup aussi,
en restant chez soi. Comme on peut trouver les pubs sur Internet.
On peut s'enrichir en dormant, comme dirait l'autre.
Oui, c'est ça.
Ça, tu sais, je sais pas s'il y a trop de méthodes sur Terre pour s'enrichir en dormant. À part d'être un rentier, d'être le petit-fils de.
Moi, je pense de l'argent, il y en a. Si on sait où la trouver, il n'y a pas de souci.
Il faut trouver la fin.
Il n'y en a pas pour tout le monde, moi, je le crains.
Tu nous diras, Adrien, avant la fin de cette émission, ça nous intéresse. Si tu connais ces lieux-là,
non, mais.
Tu penses qu'il y a des lieux, mais tu ne les connais pas. Ah bah non, ça ne m'intéresse plus.
Il y en a des lieux où gagner de l'argent. Hein.
Oui.
Il y en a, mais ils sont pas accessibles à 1% de la population qui possède déjà 40% des richesses.
C'est ça.
Tu parles de spéculation boursière, peut-être. Là,
oui, du monde, comme dirait Hollande, du monde de la finance qu'il faut éradiquer, mais qu'on leur donne 30 milliards par an. Mais pour revenir justement sur ce sujet-là et sur le. Les paris sur la vie, finalement, on a l'impression un peu les gens des assurances des finances des États-Unis qui vont dire tiens, si on regardait les pauvres s'amuser avec les trois bouts d'argent qui restent pour parier sur leur vie, ça fait carrément sadique. Oui. Et je vais peut-être chercher un peu loin dans mon analyse, mais pour moi, ça frise ça où les assureurs. S'amusent totalement avec l'argent des autres, avec la santé et donc la vie des gens.
Oui, puisque les nantis. En plus, ça n'était pas ouvert, d'après ce que j'ai compris, aux nantis, on va dire, entre guillemets. Donc c'est vraiment ouvert aux pauvres pour faire clair.
Là, effectivement, ça rejoint ce que tu dis.
C'est purement, enfin, c'est
dans le principe, c'est
horrible. C'est horrible.
Oui, mais c'est pour ça que ça peut pas se passer en France, vu que ce serait ridicule, vu que déjà il y a la santé sociale.
Sécurité sociale.
Sécurité sociale, pardon, en France, donc on peut pas faire ça en France, ça serait ridicule et ce serait vraiment là un scandale.
Bon, en même temps, qu'est-ce qui est plus immoral, de l'avoir ouvert qu'aux gens pauvres, ça aurait été pire peut-être quand même de l'avoir ouvert à tout le monde, y compris à des gens qui ont suffisamment d'argent pour et qui auraient pu gagner. Vous savez, c'est comme celui qui gagne au loto, le gros lot, et qui a déjà tout et qui a besoin de rien, et le petit ouvrier, je suis dans la caricature, là, mais pas tant que ça.
Bah, c'est vrai que dans un
jamais gagné le grand voyage.
Dans un premier temps, on pourrait se dire, c'est peut-être mieux finalement d'avoir ouvert. Hop là, un petit problème de micro. Mais donc je disais, c'est peut-être mieux que dans un premier temps. Enfin, on pourrait se dire, dans un premier temps, c'est peut-être mieux déjà d'avoir fait ça plutôt que rien. Et d'avoir permis à certaines personnes d'arriver à des soins de santé, etc. Mais en même temps, c'est tellement barbare comme méthode parce que les gens, ils vont passer tout leur argent à essayer de gagner des soins médicaux, alors qu'au final, ils auraient peut-être pu les payer et cotiser au final pour une assurance. Mais c'est assez étrange comme manière de faire. Je pense que ça va être difficile de se prononcer vraiment là-dessus, quoi.
Vous êtes d'accord avec Julien ? Vous êtes d'accord avec ce que va dire Magda ? 0952 368 531 CCCC. Nous sommes en direct. Il est 12h36 sur RDIWA ou 18h et des poussières si vous nous écoutez en rediff et que nous sommes dimanche. Magda.
Et aussi, je voulais dire que vous en avez parlé pour les radios, ceux qui doublent les salaires et. Du coup, en fait, sur la radio qui double les salaires. Eh ben,
Ah oui, d'accord, j'avais oublié moi-même.
Cette fameuse radio, oui.
Qui commence par N et qui s'arrête par J, c'est ça?
Ah, c'est ça. Et en fait, il y a des règles aussi dedans. C'est que, par exemple, pour doubler le salaire, je crois que le salaire, il ne doit pas dépasser.
Oui, il doit y avoir un seuil, j'imagine.
Oui, du coup, en fait.
Ils n'ont pas pris parmi les trois.
Je crois que c'est
plus grands patrons de France.
Si ils doublent leur
salaire, ça serait un peu.
Enfin, déjà, 3 000,
c'est pas mal quand même.
Ouais.
Ça arrondit bien les fins de mois.
Et puis aussi pour. Il y a une radio aussi locale chez moi qui offre un plein d'essence. Mmh. Et en fait, quand on écoute bien, et ben en fait, c'est toujours des Twingo ou des, ou des petites voitures, du coup.
Avec le plein 30 litres.
Voilà. C'est une petite radio, c'est normal.
Non, sur Grenoble, elle est assez connue.
Enfin, c'est quoi
votre radio Grenoble?
Et bah nous aujourd'hui on vous propose de nous rencontrer
à la journée porte ouverte du lycée du Diwa.
Voilà,
peut-être un jour dans les studios.
Vous pouvez gagner vos porte-clés.
Visiter la chambre d'Adrien, toujours bien rangée à l'internat.
On fait
la
hauteur,
visite de l'internat évidemment est offerte à tous les Diwa qui le souhaitent et à tous les futurs sports nature extérieurs.
Un très beau buffet au self aussi avec des croissants et
des
viennoiseries,
café, boissons. Enfin bref, vous serez accueillis comme chaque année.
Il faut venir vite, hein,
exceptionnellement.
Plus,
hein. Bah non, mais dis pas ça. En fait, il a dit ça. Nous sommes généreux au lycée du Diwa. C'est pas ce que veut dire Théo. Mais en venant dès le départ, en fait, c'était un argument pour que vous veniez dès 9h. Les portes seront donc ouvertes. Sujet numéro 3, petit jingle. Chef Joris.
Soyons fous.
Merci, soyons fous. On ne s'en lasse vraiment pas. Vous êtes sur CCC numéro 15. C'était presque raccord.
C'est ça la classe.
Je ne vous raconte pas les mimiques auxquelles j'ai droit à ma gauche et à ma droite. Ils sont à fond, nos lycéens. Ils en harmonie gestuelle.
Toujours.
Au diapason avec le son. Vous n'avez pas l'image, mais peut-être un jour, les radios qui sont filmées, désormais, c'est à la mode, ça aussi. Donc n'oubliez pas que vous pouvez réagir sur Facebook. Vous tapez CCC, peut-être en rajoutant Radio Diwa, mais je crois que CCC, ça suffit.
Non, c'est ça la classe
sur
Facebook.
La radio. Et vous pouvez donc commenter en direct ce que nous sommes en train de dire. C'est donc le sujet numéro 3 de ce CCC numéro 15, nous sommes dans les mathématiques aujourd'hui. Et il s'agit donc de se demander si la France est en train de perdre les touristes. En effet, les Asiatiques, il n'y a pas qu'eux, mais qui sont très nombreux à Paris, commenceraient, notamment eux, à être de moins en moins nombreux. En tout cas, entre les dernières années et l'année dernière, je crois que l'étude date de l'année dernière, on se rend compte que c'est Londres, ça n'était pas le cas jusque-là, qui a supplanté Paris dans le cœur des touristes mondiaux. La raison serait due à l'accueil des hôteliers, des restaurateurs et puis des citoyens et des gens dans la rue qui ne renseigneraient jamais avec le sourire, qui seraient affreux, sales et méchants, comme je disais dans le lancement. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que les Français ont des progrès à faire, d'après vous, en termes d'accueil des étrangers? Il y a déjà peut-être une première chose, c'est qu'on ne parle pas très bien l'anglais, langue internationale, ou les langues des touristes, non? Magda?
Du coup, moi, je voulais dire, enfin, je sais pas si je dis ça parce que je suis française, mais quand on voyage, enfin, je suis déjà allée en Angleterre, quand on voyage, et ben,
vengeons-nous sur les dons de Nia. Dis-nous ton expérience.
Non, au contraire, en fait, c'est vraiment pas du tout la même chose. Ou même dans les pays, enfin comme en Grèce, et ben les gens ils sont souriants.
Ah, je croyais que tu allais dire le contraire, d'accord. Non. Tu es très bien accueilli à l'étranger.
Oui, ah bah moi, enfin là où je suis allée, c'était vraiment mais, enfin royal, ils étaient souriants, ils nous apprenaient un peu des mots grecs.
Royal en Angleterre, c'est normal.
Et du coup bah enfin, moi je trouve que les Français, enfin après je vais pas faire une généralité, mais les Français sont complètement, enfin ils ont pas de sentiment.
Ils ont pas ce tact-là.
Alors faut peut-être pas généraliser parce que je pense qu'il y a des gens qui accueillent très bien, mais en tout cas c'est l'image qu'on semble véhiculer.
Bah c'est ce que je pense aussi.
Vous savez que les Anglais pensent aussi qu'on se lave pas, qu'on est sage, on se lave jamais les dents, enfin
et peut-être on aussi a un peu les caractères.
Qu'on est des mangeurs de grenouilles. Bon, ça
on aurait dû demander l'avis à notre Anglaise, mais elle est pas là.
Notre Anglaise, ah oui, c'est vrai qu'on a quelqu'un qui d'origine anglaise, enfin parle très bien l'anglais en tout cas.
Oui, sa mère est anglaise.
C'est Sophie, c'est ça. C'est Sophie. Sa maman est anglaise, d'accord. Théo.
Le problème des Français, c'est que quand on parle du tourisme asiatique, il y a énormément de Français qui n'aiment pas les Asiatiques. C'est un truc de fou. Je ne sais pas pourquoi, mais
parce qu'ils mettent les parapluies dans les yeux.
Voilà. Où...
Non, mais ça c'est expérience professionnelle.
C'est vrai que quand on regarde, ça fait rire parce que quand ils se perdent, on entend crier avec des drapeaux qui se lèvent dans tous les sens et puis.
Puis ils sont euphoriques, les Asiatiques.
Oui,
ils paraissent même ridicules à partir d'un moment avec leurs appareils photo.
Nous, on est un peu pareil. Quand on va à l'étranger, on prend des photos aussi. Hein, je pense qu'on se
voit. Pas jusqu'à prendre une poubelle ou bien un chien.
Mais l'Asie est très loin, Laure.
Oui,
les poubelles sont différentes.
Vous connaissez cette fameuse blague du chinois.
Non, mais tu vas nous la raconter, je sors.
On a des quand même.
Ouais, mais elle est marrante.
Pourquoi elle n'est pas d'ici, Valentine? Tu sembles la connaître.
Elle est significante. C'est un japonais qui va à Paris, puis en voyage, il revient. Et les gens lui demandent alors, c'était comment ce voyage? Oh, je sais pas, j'ai pas encore vu les photos.
Ah. Oui, ça c'est la dérive, effectivement.
Possible.
Joris, tu voyages un peu, tu as été accueilli à l'étranger avec bonhomie, sympathie.
Pas plus tard que cet été, ouais.
Oui, où ça?
À Madagascar.
À Madagascar. Une belle destination lointaine. Et alors, comment ils s'appellent?
Les Malgaches.
J'allais dire Malgaches, oui, bah c'est ça, alors, je ne me trompais pas. Bien sûr, les Malgaches sont bien accueillis.
Ouais, pour moi, c'est ce que je dis à mon père, ça fait un peu peur quand on arrive. Parce que c'est. Par exemple, je prends l'exemple en repas, au restaurant, t'as l'impression d'être un roi.
Oui, et c'est limite gênant.
Ça met un peu mal à l'aise.
Non, ça m'a mis très mal à l'aise parce que, en fait, ils sont encore dans l'esprit où ils sont inférieurs à nous. Mmh. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, où ils sont inférieurs à nous et où ils doivent tout faire pour qu'on soit le mieux possible, pour qu'ils aient pas d'ennuis.
Colonialiste.
Ouais, voilà, ouais, presque ça encore, ouais.
Oui, donc ça, c'est pas forcément la façon la plus positive. Faudrait pas tomber dans l'excès inverse, effectivement, d'être accueilli. Si on se sent mal à l'aise soi-même. Mais je comprends, j'ai déjà vécu ce genre de choses.
Je pense que c'est pas leur but à eux. Eux, ils veulent faire les choses pour que ce soit le mieux possible, mais c'est. Ça fait vraiment bizarre.
Ça met pas à l'aise. Puis, alors que ça devrait.
Il y a des pays, quand on part en voyage scolaire, qui font famille d'accueil, mais pour l'argent. L'exemple d'être allé en Angleterre.
Voilà,
Et je suis arrivé dans la famille, ils m'ont dit bonjour, ils nous ont juste demandé comment on s'appelait, ils nous ont fait à manger, et ils nous ont pas parlé de presque de toute la semaine, alors que quand on leur posait des questions, ils disaient « Ah bah, faut pas demander à nous, faut demander à d'autres personnes.
Ouais. »
Et donc, à la fin, on s'est dit, mais on leur a demandé, on leur a dit « Mais pourquoi vous faites passer ?» Oh mais... On leur dit « Ouais, mais nous, on est payé, on n'est pas payé pour parler avec vous, on est payé pour vous faire à manger, vous faire... Vous... » Et après, c'est peut-être pas ça dans toutes les familles d'accueil.
Non,
mais,
je pense.
Mais moi, j'ai parlé avec ceux qui étaient dans ma classe aussi. Il y en avait plein aussi où il n'y avait aucune communication avec les personnes.
D'accord. Après, en dehors des voyages scolaires, les hôteliers, les restaurateurs sont mieux payés encore que ces familles d'accueil parce que c'est plus symbolique qu'autre chose. Ouais. Et donc, l'argent ne fait pas tout, mais ils sont quand même censés proposer un service. Le sourire, d'ailleurs, c'est gratuit. Hein. C'est pas tellement forcément en termes de service. Et nous sommes dans un pays très développé. Il y a toutes les structures qu'il faut en France. Il y a des hôtels à la fois peu chers et de luxe dans la plupart des grandes villes, pour tous les budgets donc. Mais ce que semblent reprocher les étrangers, c'est les Français feraient la gueule. Quoi.
C'est le cadeau le plus simple. Hein. Offrir un sourire, c'est...
Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? On peut pas non plus obliger les gens à sourire, mais...
Bah, c'est les Français, c'est leur caractère comme ça.
Oui. Ah,
Pas tous, encore une fois. Non. Il m'arrivait de tomber sur des hôteliers de restaurateurs charmants, mais bon.
Moi, c'était pour revenir sur Théo. En fait, du coup, moi aussi, comme je l'ai dit, je suis allée en Angleterre et en fait, je pense que c'est différent d'une famille à l'autre et de quartier à quartier. Ouais. Parce que moi, on est tombé dans un quartier où la famille, elles étaient toutes. toutes gentilles. Enfin, surtout la mienne, enfin, elle était vraiment trop bien. Elle était
tout le monde
gentil
avec toi, Magda. Mais c'est peut-être aussi que tu es gentille. Alors que Théo,
tu as une bonne
Théo, si tu arrivais en faisant la tête aussi.
Non, parce qu'après j'en ai.
C'est pas ton genre.
Non, mais oui, ça doit pas être pareil parce que vu que moi quand. Au moment où on est allé à un musée et comme j'ai les cheveux roux, il y avait des gens, ils m'avaient pris pour leurs copains. C'était assez marrant, je m'étais fait payer un coup à boire alors que je connaissais strictement pas et c'était assez marrant.
Pour une fois, on en a parlé il y a quelques semaines que ça sert d'être roux et qu'on n'est pas moqué, comme tu disais toi-même. Voilà, faut bien trouver. Faut habiter en Angleterre en fait. Non, je suis provocateur. Tu es très bien en France. Tu es fort sympathique français aussi.
Après, il y a peut-être aussi autre chose.
On avait peut-être interrompu Magda, pardon, avant de donner la parole.
Excuse-moi, Magda.
Coup...
Non, mais c'est bon, c'est pas grave.
Non, tu as
à terminer.
À part l'Angleterre, Madagascar, il y a d'autres. Je te donne la parole, Julien, d'autres expériences à l'étranger, d'autres pays, la Norvège,
l'Espagne. Oui.
Je crois que les pays du Nord sont, malgré le froid qu'il y a dehors,
très accueillants. Très accueillants en Suède, très bien accueillis aussi.
La Norvège, pour moi, il n'y en avait pas un qui faisait la tronche. Ils faisaient tous le sourire.
Et aussi. En Afrique du Sud, on a beau aller en famille d'accueil où on paye, où les familles d'accueil sont là pour l'argent. Enfin, moi, j'ai eu une expérience où on était plusieurs et famille d'accueil très sympa, très agréable. Et bon, après, c'est vrai que.
Bon, si je comprends bien, pour être bien accueilli, il faut aller à l'autre bout du monde, quoi. Madagascar, l'Afrique du Sud, surtout pas en France.
Non, non,
c'est ça. Ne restez pas. Non, on va pas aller jusque-là.
En Italie, ça marche très bien. Famille d'accueil très sympa.
D'accord. Julien, donc, qu'est-ce que tu voulais dire?
Eh bien, que je pense que l'accueil qu'on réserve aux touristes, c'est peut-être aussi un petit peu par rapport aux attitudes qu'on a dans la vie courante. C'est-à-dire que si, je prends l'exemple des Parisiens, c'est pas méchant, c'est pas non plus des stéréotypes du tout, mais si on a une vie difficile, qu'on est fatigué tout le temps, que c'est un peu...
une vie très stressante à Paris.
Un boulot, métro, dodo, en quelque sorte. Ouais. Je pense que les gens, quand ils voient un touriste, ils disent « Oh là, lui, il commence à nous pomper l'air, c'est lui qui est responsable des bouchons. » Enfin, voilà, c'est un peu tiré par les cheveux, mais les gens, ça peut se comprendre, en tout cas, qu'ils aient des
Et là, on parle des gens dans la rue qui font partie du lot, si je peux dire, de critiques, mais quand même, ceux dont c'est le métier sont parfois aussi critiqués, les hôteliers, les restaurateurs,
mais
par les étrangers.
Bien ça, aussi, le
c'est leur métier quand même, c'est une vocation de bien recevoir les gens.
Et bah ouais,
qui gagnent leur vie avec ça. Donc
ils sont payés pour sourire aussi.
C'est peut-être parce que aussi, ça a été une ville tellement touristique, Paris, qu'à force, ils se disent « Bon, bah, de toute façon, c'est bon, on aura toujours des touristes, même si on se comporte un peu moins bien, ça se verra pas. » Bah non, la preuve, on est en train de perdre la place au niveau du tourisme mondial.
Ça, c'est juste. Il y a une espèce de confort qui fait que, de toute façon, c'est incontournable. C'est la ville d'Europe, peut-être, ou une des villes d'Europe
du monde,
fréquentée, voire du monde.
Mais peut-être que Londres nous a dépassés, mais Cocorico, la France est toujours la première destination mondiale pour le tourisme.
Mmh. Dans le pays en entier, oui, effectivement. Donc,
le problème en France, c'est au niveau des caractères. Par exemple, moi quand je suis allé en Allemagne, les Allemands, ils nous ont dit qu'ils aimaient bien les Français, mais qu'ils avaient l'impression que les Français ne les aimaient pas. Parce qu'au niveau de la langue, quand on entend parler la langue allemande, on a l'impression que c'est du charabia. On ne comprend pas très bien.
C'est pas faux.
Presque c'est exagéré.
Ils font des belles voitures.
Et pourtant, quand on va là-bas, et bah, quand on écoute comme ça, quand on a un copain qui fait l'allemand et qui nous parle, on ne comprend pas.
On ne peut pas avoir à la fois de belles voitures et une belle langue. Je plaisante évidemment. Et je salue monsieur Schwerès, le professeur d'allemand du lycée.
On ne comprend pas très bien.
C'est fort sympathique.
Alors
qu'il y a de l'humour.
Alors que quand on va en Allemagne, là-bas, c'est impressionnant. Moi, je fais partie d'un groupe de musique et quand on est allé là-bas, quand ils nous ont accepté, mais je sais pas, pour moi, c'était le rêve. On a l'impression d'être dans un hôtel et t'as des gens qui arrivent qui te demandent comment ça va.
C'est plus le rêve américain, c'est le rêve allemand.
Voilà, on termine sur ce sujet avec Magda et Ulysse, peut-être.
Ouais, vas-y, Magda,
avant de passer à nos coups de cœur et nos coups de gueule.
Aussi, y a les Français, ils se comportent pas mal avec les touristes, mais il faut regarder aussi dans la rue, dans les grandes villes, il y a personne qui se regarde, personne se calcule.
Ouais,
dans les trams, on est tous avec nos écouteurs, il n'y a plus de vie. Et puis même, il y a une petite anecdote si on a le temps. Enfin, du coup, ça fait un peu peine à dire. En fait, ma sœur, elle m'a raconté qu'elle était dans le tram un jour et il y avait un accordéoniste qui était rentré dans le tram, qui jouait de l'accordéon. Et le conducteur du tram avait dit « Je ne démarre pas le tram tant que l'accordéoniste n'est pas sorti. » Et quand il a dit ça, tout le monde a applaudi dans le tram. Du coup, l'accordéoniste a dû sortir.
Bon, pardon, je croyais que tu allais dire tout le monde est sorti par solidarité. La chute est moins heureuse, effectivement.
Ça
en dit long.
Et justement, j'allais dire là-dessus. En France, on manque de tolérance. On manque de tolérance à Paris, ça va être les touristes, mais dans toute la France.
Manque de patience aussi. De patience.
De patience, dans quel sens?
Mais de
plus en plus, on l'a évoqué hier soir, quand on est sur son ordinateur maintenant, que ce soit un ordinateur qui n'affiche pas la page internet au bout de 10 secondes, c'est pétage de câble ouais, direct. Ouais,
c'est différent ce que je veux dire, c'est qu'on est, ouais, oui. Par rapport aux personnes, aux caractères.
Ça m'a fait penser à ça.
En France, je trouve que par rapport au problème d'immigration, mais là, bon, les touristes, c'est différent, mais il y a un rapport. Et là, Magda, ce que tu viens de dire,
ils ne sont que de passage.
Ce qui m'horrifie, c'est vraiment l'intolérance des Français qui vraiment me fait peur et qui, ouais, j'ai honte dans ces moments-là. Comme par exemple, c'est les gens, par exemple, dans la rue, il y a un SDF qui va tendre la main. Bah, moi, personnellement, je trouve le minimum, par exemple, on enlève les écouteurs, on sourit. Et faire ce genre de petits gestes, et ben, les métro-boulot-dodo parisiens, j'ai l'impression que des fois, c'est complètement déshumanisé, que les Français sont complètement, ouais, ça sont déshumanisés. Et ça, moi, ça me fait vraiment très peur.
Mon moral, habiter la campagne, c'est dit, on y est tellement bien.
Ouais. Exactement.
Puis c'est vrai, quand on joue de la
musique... prend plus le temps, c'est sûr, dans la réalité, comme on dit.
Je prends l'exemple de la musique, quand on joue de la musique dans la rue, il y en a, ils vont croire que t'es un clodo. Alors que non, c'est un plaisir. Moi, j'avais joué avec un copain, bon, c'est vrai qu'on n'a pas le droit dans la rue. Mais quand on joue, et bah, t'en as qui vont te regarder, qui vont te dire oh là là, celui-là il a pas d'argent. Machin. Ouais, et t'en as qui vont venir, qui vont écouter, qui vont demander d'où tu viens. Machin. Et c'est... Il y a une image différente.
C'est une mentalité ouais, aussi. C'est avoir peur de l'autre par rapport
oui, c'est ça.
Principe.
C'est ça.
Ou s'ouvrir à voilà, quelqu'un qui fait de la musique.
C'est une grande question. Oui. On a peur de l'autre, de la différence mais en France, vrai. Plus que dans d'autres pays.
Puis Magda disait vraiment maintenant, dans les aéroports, quand on attend, dans les gares, de partout, les lieux publics, les gens ne se parlent plus entre eux, vraiment. C'est, ouais, c'est dommage, aussi, vraiment. Hein, c'est...
Ils sont transparents, les uns aux autres.
Ils sont transparents, ils sont sur leur... chacun sur son portable, à faire des jeux, à écouter la musique. Mais vraiment, c'est vraiment scotché et ça tue carrément les relations entre les personnes.
Essayez quand même, vous avez sûrement déjà essayé, mais pour briser la glace et terminer sur une note optimiste, si je laisserai vraiment le mot de la fin à Julien, d'engager la conversation. Quand même, de temps en temps, ça marche. Ouais, on croit que les gens sont très fermés. Voilà. Alors, ça peut être par un brin d'humour, ça peut être par une anecdote, ça peut être par
la
un
météo,
commun.
Ça marche
la
tout
météo,
temps,
un truc tout bête, on cherche son chemin. Et il y a des gens qui vont se mettre à raconter votre vie. Toujours leur vie, pardon.
Je suis entièrement d'accord.
Et c'est justement là que je veux en venir.
Il faut avoir le risque.
Le risque, il faut le prendre, mais des fois, ça fait même peur aux gens. Moi, je prends l'exemple, j'étais dans le métro parisien.
Sans les agresser, Julien.
Ouais, non, mais loin de là. J'étais dans le métro parisien avec mon sac à dos. Je pense que j'étais un petit peu différent des autres parce que j'étais pas habillé en tailleur, etc. Enfin bon, sans
Julien, Julien en tailleur.
Ah, ce qu'on me disait, t'es donc tailleur, vrai.
Oui, non, mais en costard cravate. Enfin bon, bref. Et je connaissais pas Paris et j'ai demandé à une dame qui était vraiment très sympa et qui était assise à côté de moi. Je lui ai demandé simplement qu'est-ce qu'il vaut mieux voir, la place des Invalides à Paris ou la place de la Concorde. Et du coup, on a commencé à discuter là-dessus. Et puis, mais elle m'a regardé quand je lui ai demandé ça. Elle a presque été surprise. Elle me dit tiens, un petit jeune qui me parle. Elle devait vraiment pas avoir l'habitude et elle a presque eu peur au début. Alors au final, elle s'est rendue compte que j'étais pas méchant du tout. Enfin, j'avais pas l'air, en tout cas, je pensais pas l'être. Mais j'ai vu que ça l'avait surprise que je lui adresse la parole. Quand même
une femme, ça peut parfois penser que c'est une technique de drague. Mais enfin, bon, là,
oui, enfin, bah,
l'écartage, à moins
pas que
ce soit prise pour une cougar, était trop. Voilà,
tu n'as pas une tête de Don Juan.
Non, c'est pas ce que je voulais dire.
Il y a beaucoup de différences entre les régions. Par exemple, en Drôme, si on promène avec son sac à dos de montagne, ils vont regarder, ils vont faire bah lui il est d'ici. Que moi, avant, quand je suis retourné chez moi, il y avait des gens dans la rue qui te regardent comme ça. Bah, j'allais à mon entraînement, j'étais avec mon sac à dos.
C'est comme en
Ardèche. J'ai l'impression d'être
En Ardèche, si on roule vite, on voit tout de suite qu'on est par des choix. Pardon.
Bon, on va arrêter là les clichés peut-être. Adrien, tu voulais dire
Oui, c'est comme un exemple. Mon père qui était à l'hôtel, et à l'hôtel, vraiment, quand on est en voyage d'affaires, chacun est tout seul un peu à sa table. Et mon père a cette habitude d'aller vers les gens et dire « Est-ce que je peux manger avec vous ?» Et bon, des fois ça passe, des fois ça casse, mais bon, c'est pourquoi pas. Voilà, c'est un moyen de...
Mais souvent, ça peut être très convivial. Puis on n'insiste pas, si la personne ne veut pas, les personnes ne veulent pas, bah, on dit bah, « Tant pis, désolé de vous avoir importuné. » Et puis voilà quoi. Moi, je sans faire d'anecdote personnelle, mais rapide, c'était dans le Languedoc, c'était à Palavas-les-Faux il y a quelques semaines de cela. Pareil, j'étais seul à ma table et puis c'est deux personnes qui m'ont plus ou moins d'ailleurs interpellé. J'en étais au dessert quand même, hein, donc j'étais prêt à partir. On a tellement discuté de fil en aiguille, je suis resté une heure de plus après le dessert. Et en fait, eux venaient d'arriver, ont commandé, et j'assistais à tout leur repas, puisque je les ai accompagnés jusqu'au bout.
Et vous avez pris un deuxième repas.
Voilà. Non, ça je ne te permets pas, tu dis ça par rapport à mon poids, ça se voit. Et on a parlé de la jeunesse, on a parlé de vous, on a parlé de l'avenir de la France. Et c'était des gens très conviviaux et qui avaient plutôt une idée positive des jeunes. Et voilà, on a échangé sur nos professions respectives, nos origines respectives. D'ailleurs, il y avait un monsieur d'origine thaïlandaise, enfin voilà. C'était encore plus intéressant parce que c'était ouvert à d'autres cultures. Voilà, je me suis dit, ben voilà, des gens sympathiques et ça existe. Ça fait, je le savais déjà. Ça. Mais ça fait plaisir. Existe. Ça fait chaud au cœur. Donc les Français ne sont pas tous affreux, sales et méchants. Nous passons à nos coups de cœur et à nos coups de gueule. Vous allez être libre évidemment d'évaluer les sujets que vous voulez. Juste deux petites suggestions peut-être. Le non-cumul des mandats qui a été voté il y a quelques semaines de cela. Donc désormais, il sera impossible, mais qu'à partir de l'année prochaine, de 2015, de cumuler à la fois un mandat local et un mandat dans une assemblée. Sénat ou Assemblée nationale, et puis cette fameuse histoire de cannabis, donc est-ce qu'on doit faire en sorte de détecter pour leur santé tous les lycéens de France une fois par an. Ulysse ?
Ouais, alors
0952 368 531, évidemment, le standard est toujours ouvert. On a des réactions ?
Ouais, c'est pas là-dessus, je voulais mettre un coup de gueule comme à mon habitude, sur une personne que pourtant j'aime beaucoup. Qui me plaît, que je trouve bien, c'est Christiane Taubira. On a appris aujourd'hui, par l'intermédiaire du Canard Enchaîné, qu'elle a quasiment forcé la démission du procureur général de Paris. Et donc, complètement, elle s'immisce dans les affaires, pouvoir exécutif, Christiane Taubira, garde des Sceaux, qui s'immisce dans les pouvoirs de la justice et donc du Conseil national de la magistrature. Je trouve ça proprement scandaleux pour une femme qui, pour moi, me paraît. Avoir de très belles idées.
Oui, je t'ai entendu ici même plutôt la défendre sur d'autres sujets.
Ah mais cela n'empêche pas, je ne suis pas toujours oui ou toujours non. Il faut savoir avoir une part de critique toujours.
Alors j'ai pas lu cet article de Canard Enchaîné, mais j'ai entendu hier, est-ce que c'est un rapport, c'est un procureur qui avait refusé, parce qu'à 18 mois de la retraite, c'est celui qu'elle proposait alors de prendre le poste.
J'ai entendu ça ce matin aux infos, général, oui, c'est le Canard qui l'a ouvert, ces directeurs de cabinet l'ont reçu. Est-ce que vous pouvez présenter votre démission et on vous remettrait par exemple à la Cour de cassation? Ils avaient proposé, il a refusé et du coup, c'est pas du tout normal. La séparation des pouvoirs n'est pas respectée, c'est pas bien.
D'accord, c'était le coup de gueule d'Ulysse sur le cannabis, sur le droit de vote. Non, pas le droit de vote, pardon, le cumul des mandats ou autre chose.
Par rapport à Manuel Valls, justement, lors des manifs pour tous, qui ose montrer du doigt et puis citer les extrémistes religieux ainsi que ceux qui sont d'extrême droite, alors qu'il n'ose pas... enfin, ça passe quand il dit ça, mais il n'ose pas désigner, par exemple les immigrés musulmans qui foutent le bazar un peu dans les banlieues. Et ça, s'il dit ça, par exemple, aux médias, il se fait complètement déchirer, alors que dire les extrémistes...
Tu penses qu'il y a deux poids, deux mesures? Parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on entend en ce moment, c'est-à-dire qu'on défend beaucoup les juifs parce que la Shoah, parce qu'une période de l'histoire particulière. Et
oui, mais alors, c'est quand même la même chose, c'est montrer du doigt des personnes, et d'un côté ça passe, d'un côté ça passe pas, du coup je trouve ça... Il y a un problème, il y a une question à se poser à ce niveau-là, quoi.
Après, c'est une affaire de délinquance, Adrien. C'est pas une affaire de musulman ou de juif ou de.
Bah oui, mais quand même, accuser des personnes de faire des dégradations pendant les manifestations et après laisser de côté justement ces personnes sans les citer dans les banlieues, voilà.
Tous les débordements sont condamnable, en tout cas, quel qu'il soit, on est bien d'accord.
Oui, certes,
quelle que soit la religion ou l'origine des gens,
des
autres.
Il y a un degré de différence.
La violence n'est jamais à légitimer, justifier. Bon, le cannabis, ça peut vous inspirer, là. C'est pas que je veuille orienter la fin de l'émission là-dessus,
mais
vous êtes les premiers concernés, puisque c'est les lycéens qui... Alors, ça n'est pas fait, c'est le dépôt d'une proposition de la part d'Éric Ciotti, qui est député des... Oula, dit Ulysse. Député UMP, mais plutôt de l'aile... la plus à droite, on va dire.
Non, c'est à peine.
De Nice.
Ah oui.
Donc, vous pensez que c'est normal si vous étiez parent, évidemment, oui. Vous êtes...
On en avait déjà parlé.
Enfant, pour l'instant.
Une fois en cours, je me rappelle.
C'est possible.
On avait débattu un petit peu. C'est vrai que je pense que, dans une certaine mesure, il y a possibilité de faire ce genre de choses. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'un test... pour voir la présence de cannabis, donc le THC, dans le sang, ça coûte déjà, c'est pas remboursé, ça c'est certain, ça coûte dans les 200 et quelques euros de le faire.
Bon, bah là, je pense que l'État prend en
charge. Pour une personne.
Voilà, alors je pense que justement, il y a peut-être un juste milieu de là le faire obligatoirement tous les ans, il faudrait peut-être déjà le rendre gratuit et éventuellement de donner le droit aux parents qui n'ont pas forcément un moyen de le payer. Le droit de le faire passer à leurs enfants pour au moins savoir s'ils ils sont vraiment victimes du cannabis ou pas. Alors après, de le rendre obligatoire, ça je sais pas
si ça vaut le coup de dépenser autant chose. D'argent pour voilà.
Et peut-être d'autres priorités à certains endroits. Ouais. Mais voilà, après ça dépend des.
Un député maire, je termine là-dessus, c'est bien, ou député tout court ou maire tout court? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire les deux à la fois?
Ça fait peut-être beaucoup.
C'est le cas en ce moment. Ouais. Ou est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de la part de...
Ah, ben, je comprends pas comment le cumul des mandats peut être interdit dans la Constitution de 1958. C'est proprement un scandale.
Ah, tu es franchement contre là.
Le cumul des mandats. Ah oui.
Ah, le cumul. Pardon, j'avais compris le non cumul.
Ah oui. Le cumul, c'est un propre. Ah, oui, c'est enfin, à mon avis, une des très grandes plaies de la République française.
Oui.
Donc c'est une bonne nouvelle pour toi, pour la démocratie.
Mais non, ils ont reporté, donc ça va être à 2000, ça va être pour les
trop tard.
Pour les députés, ça va être en 2017. Les sénateurs, ils ont voté la loi, mais ce sera pas pour eux. Mais en fait, le problème, c'est qu'on essaie de faire voter une loi contre ceux qui votent les lois. Donc il faut un référendum, tout simplement.
Ah, les fameux référendums.
Ah non, moi je suis...
dont tout le monde nous dit qu'on va en avoir avant de se faire élire, et puis finalement on n'en a pas beaucoup en France.
Pour moi, c'est il faut les utiliser rarement, mais
oui,
quand
ça c'est sûr, en France ils sont rares.
Mais il faut les utiliser rarement, mais quand c'est quelque chose qui s'applique, qui est aussi radical et qui s'applique justement aux gens qui votent la loi, c'est rare que les gens se tirent une balle dans le pied.
Et puis il faut prendre le risque, oui, mais justement d'avoir une réponse qui n'est pas favorable à celle qui est posée par l'homme politique. Je ne sais pas si ma phrase était compréhensible. C'est-à-dire qu'on prend le risque d'avoir la réponse inverse, celle qu'on attendait. Hein, ça, c'est le principe du référendum. C'est pour ça que les hommes politiques sont frileux, probablement.
Après, il faut voir, ça marche très bien. Regardons notre cher Didier Guillaume, qui est directeur du département et qui est vice-président du Sénat.
Oui, bah, oui. C'est un scandale. Moi, je trouve ça pas normal du tout.
Ça marche très bien, le département marche très bien, il s'en sort au Sénat.
C'est pas, mais ça va pas jouer sur le.
Monsieur Jouve pourra peut-être répondre
à
ce mot de scandale
sur le bon ou mauvais fonctionnement.
Plutôt du côté de la majorité présidentielle.
Je lui poserai la question. Les Verts, majorité présidentielle.
Bah, ils sont dans les soutiens du gouvernement, bien sûr.
Ouais, non, mais pas plus de 10 couleuvres par jour, ils avalent.
On lui reposera la question. Ils avalent les couleuvres sans doute, mais ça n'empêche pas qu'ils sont plutôt dans le soutien. À l'origine, ils étaient dans le soutien du gouvernement. Eh bien, on va s'arrêter là. Merci d'avoir été fidèle à cette émission, comme d'habitude. Donc, notez bien ce rendez-vous exceptionnel. C'est pas dans 15 jours, enfin, si aussi dans 15 jours, avec M. Berginia, le maire de Die actuel. Mais dès la semaine prochaine, avant M. Berginia, nous recevons donc Didier Jouve, conseiller régional vert et président de la commission des finances au conseil régional Rhône-Alpes, et qui donc est aussi un des 3 candidats pour l'instant déclarés officiellement, en attente probablement d'un 4e, voire d'un 5e dans les jours qui vont suivre. Candidat à la mairie de Die, ce sera à 12h10. On fera nos petits coups de cœur et nos coups de gueule de 12h10 à 12h20. On en sort de ces coups de cœur et coups de gueule, donc dans une semaine il y aura d'autres sujets j'imagine. Et de 12h20 à 13h, 40 minutes exactement, par souci d'égalité parfaite et d'équité avec les deux autres candidats, nous écouterons et les lycéens pourront poser toutes les questions qu'ils le souhaitent. Préparez-vous d'ici là à Monsieur Jouve. Passez une excellente journée sur Radio Diwa et donc rendez-vous la semaine prochaine. Nous serons le 12 en direct à 12h10 comme d'habitude. Lycéennes et lycéens,
à très
la
bientôt.
Semaine prochaine.
Au revoir. Au revoir.